Les Nuits de France Culture, la seconde nuit consacrée à Ernest Hemingway, se poursuit sur France Culture. Pour nous accompagner durant cette nuit, nous sommes avec Guy Scarpetta, essayiste, critique et romancier. Le matériau de base de l'écriture de Hemingway, c'est la vie, les expériences vécues. Être sur les champs de bataille de la Grande Guerre, être à Paris dans les années 20, être au cœur de la guerre d'Espagne, être en Europe pour les derniers mois de la Deuxième Guerre, être à Cuba aussi d'une certaine façon. Être là où ça se passe, voir, entendre, ressentir sur place, en direct, éprouver, comme s'il ne pouvait y avoir d'écriture, sans l'expérience vécue, sans les choses vues. S'inscrit-il en cela dans une lignée d'écrivains comme London, Melville, Conrad peut-être, ou est-ce de toute autre chose dont il s'agit, Guy Scarpetta ?
C'est une question très difficile, parce que d'un côté, en effet, Hemingway était persuadé qu'on ne parle bien en littérature que de ce qu'on connaît. Mais bon, ce qu'on connaît, c'est pas forcément les grands événements historiques. Ce que connaissait Proust est énorme. Et bon, l'histoire n'y intervient que tardivement. Bon. Mais on ne parle bien que de ce qu'on connaît. D'un autre côté, ça va au-delà, quoi. C'est-à-dire, ceux dont vous me citez, même les meilleurs, je dirais qu'ils ont transcendé le reportage, quand même. Hemingway a fait tout autre chose. Il s'est servi de circonstances historiques pour explorer certains aspects, encore une fois, méconnus, ambigus, équivoques, contradictoires, paradoxaux des expériences humaines. Bon, c'est tout à fait autre chose. L'histoire est un contexte révélateur pour Hemingway, avant tout. Même s'il lui arrive de décrire une bataille. Bon, c'est pas contradictoire.
Gérard Georges Lemaire dit qu'il y a un aspect scandaleux de l'œuvre de Ernest Hemingway, c'est qu'il faut faire flèche de tout bois. Toute situation dans son existence est une occasion rêvée pour travailler des pièces de fiction.
Bon, je sais pas. Par exemple, il a jamais écrit un grand roman sur la Deuxième Guerre mondiale. Il a quelques réflexions sur la Deuxième Guerre mondiale d'un colonel de l'armée américaine. Bon, mais il a pas écrit l'équivalent pour ce qu'il a vécu en 1944, de ce qu'a été pour Kyson Le Glas en ce qui concerne son expérience de l'Espagne. Bon, non, donc non, c'est pas quelqu'un qui cherchait l'événement pour s'en emparer aussitôt. Je crois qu'il faut parier sur la sincérité d'Hemingway. Il a fait la guerre, il s'est engagé pour faire la guerre en Italie. Il a été ambulancier sur ce front terrible qui était dans le Frioul, au nord de Trieste. La prise de Gorizia a été quelque chose de... Je sais, mon grand-père y était, donc je peux en parler. Il a probablement frôlé Hemingway. La prise de Gorizia, à la fin, on savait pas qui avait gagné, tellement il y avait de morts. Bon. Ce qu'a été la débâcle de l'armée italienne, une fois que les Allemands sont venus en renfort, et après le désastre de Caporetto, qui décrit très très bien, cette espèce de retraite qui vire à la débâcle, c'est quelque chose... Mais il l'a vécu sincèrement, il y a été parce qu'il aimait l'Italie, bon c'est tout. Il a été en Espagne parce qu'il pensait que c'était le sort de l'humanité qui était en jeu. Soit dit en passant, je remarque que même dans certaines éditions d'Hemingway, on parle de guerre civile espagnole, par exemple. Jamais Hemingway n'aura employé cette formule. La guerre civile espagnole, c'est les franquistes qui parlaient de guerre civile. Pour les autres, c'était pas une guerre civile. C'était l'armée régulière d'une république qui se battait contre un putsch de généraux factieux. Ça n'est pas une guerre civile. Bon, alors après, c'est devenu ça. Mais il y a cru. Et je crois que, de même, d'accord, il y avait un côté bravade, je vais être le premier à libérer le Ritz quand je rentre avec les troupes américaines à Paris, mais c'est presque une blague. En fait, quand on lit les petites chroniques qu'il a écrites, ce qui l'intéressait, c'était de repérer, et d'ailleurs le colonel Campbell, dans Au-delà du fleuve et sous les arbres, en parlera après, que par exemple, on a fait toute une épopée de l'entrée de la 2e division blindée de général Leclerc dans Paris, alors que les Allemands étaient en gros déjà partis, que la retraite avait déjà eu lieu, qu'il restait des troupes d'arrière-garde qui ont fait des dégâts, hein, qui ont tiré depuis les toits, L'exploit, il était totalement artificiel. Bon, et il y a un moment, Hemingway, dans ses chroniques, dit « Ce qu'on libérait Paris, c'est les résistants. Hein. » Quand Leclerc est rentré, Paris était libéré depuis 3 jours, par les résistants. Et le colonel Campbell, c'est étrange de savoir ça, de la part d'un Américain, dit « Le meilleur type que j'ai rencontré parmi les Français qui se battaient, c'était les FFI. » Il avait ce regard, mais il aimait le peuple espagnol, il aimait le peuple italien, il aimait le peuple français. Bon, on le voit, et cet amour était fondé sur une conscience complète. Alors, ça peut être d'ailleurs l'occasion de parler de quelque chose de très intéressant, qui est l'écart qui peut exister entre Hemingway dans la guerre ou dans les guerres en tant qu'homme, et Hemingway devant la guerre, ou devant les guerres, en tant qu'écrivain. Hemingway donc a participé, de près ou de loin, à 3 guerres en Europe. C'est déjà énorme, hein, il n'y a pas beaucoup d'Américains qui pourraient en dire autant. Mais quand il participe au front italien contre l'Autriche et l'Allemagne, dans le Frioul, pendant la guerre de 14-18... Il met un certain temps avant d'écrire. Il écrit même un livre entier, Le soleil se lève aussi, sur un tout autre sujet, une espèce de dérive festive et un peu morbide dans l'Espagne, avant... Enfin, il lui faut du recul. Il lui faut plusieurs années de recul. Et en ce qui concerne la guerre d'Espagne, c'est beaucoup plus rapide. Il l'écrira pour Kirsten Le Glas assez vite, mais moi, il y a une chose qui m'a toujours frappé. Dans tout ce qu'il a dit et dans tout ce qu'on sait d'Hemingway, en tant que soldat, il était très discipliné. C'est-à-dire, il est arrivé en Espagne et il a très vite compris que il fallait être du côté des communistes si on voulait viser une certaine efficacité. Il a tout de suite compris que les communistes avaient des conseillers militaires et des commissaires politiques russes, et que c'est eux qui étaient les stratèges, en fait, plus que les communistes espagnols eux-mêmes. Et il a tout de suite compris qu'une guerre comme ça, qui se fait avec une infériorité numérique, avec beaucoup moins d'armes, avec moins d'alliés, ça ne peut se mener qu'avec une discipline de fer. Donc, là, Hemingway, c'est un bon soldat. Le militant devient un militaire et c'est un bon soldat. Et puis après, il fait un roman. Et là, d'un seul coup, il y a un autre regard. Par exemple, il y a toute une part dans Pour qui sonne le glas, un chapitre absolument magnifique sur les exactions absolument sauvages menées par les anarchistes au moment des règlements de compte. Sur le moment où on rassemble les notables de la ville, le curé, etc., et où on les massacre. Et où on aime les massacrer. Et où même le peuple qui participe à ce bain de sang finit par en être écœuré. Donc il n'efface pas, dans son propre camp, ce qui était négatif. Et il va même jusqu'à faire un portrait au vitriol du principal conseiller politique des Brigades internationales, qui était André Marty, qui s'appelle Massard dans le roman, et qui est un fou furieux, qui est un paranoïaque, qui d'une part se fait passer pour un héros mutin de la mer Noire alors qu'il était magasinier, c'était pas du tout un marin, et qui d'autre part est toujours saisi d'une espèce de paranoïa meurtrière. Il soupçonne tout le monde, même les généraux russes sont soupçonnés d'être des espions. Il est prêt à faire fusiller n'importe qui. On voit la paranoïa meurtrière d'un chef stalinien. Autrement dit, il a été militant, comme Malraux d'ailleurs. Malraux a été derrière les communistes en Espagne, parce que c'était les plus disciplinés, les mieux armés, et ceux qui étaient plus, au total les plus efficaces, ou du moins les moins inefficaces. Bon. Mais une fois qu'on passe au roman, là c'est très étrange à repérer. Malraux continue dans l'épopée. Hemingway, il est dans le regard froid.
La distance.
Il est dans la distance, il est dans le regard lucide. Il n'hésite pas à décrire ce qu'il y avait de négatif et même d'atroce dans son propre camp. Voilà.
Vous parlez de la guerre par Malraux et celle de... raconté par Hemingway. Guy Scarpetta, vous m'avez avoué être en âge de vous souvenir de la mort de Céline et de celle de Hemingway en 1961, à quelques heures d'intervalle l'une de l'autre. Céline, Hemingway, deux écrivains marqués par leur expérience de la Première Guerre. Que nous dit la comparaison de la manière dont apparaît la guerre dans leur œuvre ?
Bon, Céline a vécu l'horreur et il a su la raconter, se forger la langue qu'il fallait pour la raconter, sans idéalisation, sans blabla. Sans héroïsme déplacé. Il a inventé quelque chose d'anti-héroïque. Et dans une langue foisonnante, riche, inventive, etc. Hemingway, avec sa langue d'une extrême sobriété, participe un peu de la même fonction. C'est-à-dire, on n'idéalise pas la guerre. On en parle. On la regarde. Du coup, la stratégie devient peut-être encore plus intéressante, parce que... quand on a le sens de la stratégie, on n'est pas dans l'idéalisation, dans l'emphase ou dans la promotion à tout prix de l'héroïsme. Ils sont proches d'une certaine manière par la façon dont ils désidéalisent et démystifient la guerre. Maintenant, du point de vue du style, c'est à l'opposé. Alors, je fais une toute petite rectification. Je me souviens, je devais avoir 14 ans, je me souviens d'avoir entendu à la radio évoquer la mort d'Hemingway, donc c'était déjà une star à l'époque. Évidemment, la radio n'a pratiquement rien dit sur la mort de Céline. Je n'ai eu accès à Céline qu'au moins 5 ou 6 ans après.
Soupçonnez-vous, comme on l'entend, comme on le lit parfois, qu'Hemingway ait été fasciné par la guerre, voire même qu'il l'ait aimé?
On peut pas vraiment faire la guerre si on l'aime pas. Voilà. Mais en même temps, il a des mots totalement féroces sur ceux qui aiment le sang et la violence et pour qui la guerre est une occasion de tuer. Voilà, mais ça, je crois que c'est une expérience qu'il faut avoir vécue pour en comprendre. Bon, mais si on n'aime pas la guerre, on la fait pas bien. Et si on l'aime trop, on devient autre chose qu'un guerrier. On devient une bête sauvage. Bon. Donc, je crois que toutes les méditations du colonel Cantwell dans Au-delà du fleuve et sous les arbres sont des méditations là-dessus. Alors, de temps en temps, il y a des choses bizarres. Par exemple, le colonel Cantwell a une espèce de haine contre le maréchal Montgomery, qui est le chef d'état-major des armées anglaises après le débarquement. Pendant l'avancée des Alliés. Et il y a quelques lecteurs anglais qui lui ont reproché, mais il a dit, mais attention, moi j'ai une énorme admiration pour Montgomery. Simplement, là, je me suis mis dans la tête d'un officier américain qui avait du mépris pour les soldats anglais. Mais c'est pas moi. Voilà. Donc voilà, la distance, faut savoir où elle est. Il aimait pas Leclerc, ça c'est évident. Il raconte d'ailleurs dans une chronique, il raconte pourquoi. Ce que dit le colonel Cantwell est quand même très très intéressant, quoi. Bon, il parle très bien des différentes stratégies. Il parle très bien de la manière dont il y a deux choses qu'il faut éviter quand on mène une opération militaire. La première, c'est de lancer des opérations à l'aveuglette, de lancer des ordres, par exemple, dont on ne sait pas s'ils pourraient être exécutés, ce qui est le défaut des officiers. Et puis la deuxième chose à éviter, c'est de choisir que les gens de la troupe choisissent entre les ordres qui leur conviennent et ceux qui leur conviennent pas. Ce que faisaient parfois les gens de la guerre d'Espagne. Et ce que fait un des personnages, d'ailleurs, qui s'appelle Pablo dans Pour qui sonne le glas. Donc voilà, faut savoir obéir aux ordres, les comprendre, mais faut pas que les ordres soient non plus stupides. Voilà. Et les personnages militaires chez Hemingway, qu'il s'agisse de Robert Jordan dans Pour qui seul le glas, bon, qui est un militaire, c'est un engagé, hein, c'est un engagé des brigades internationales, c'est pas un vrai militaire. Et puis le colonel Cantwell dans Au-delà du fleuve et sous les arbres, ce sont des gens qui ont réfléchi à ça. Cantwell a lu Sun Tse, il connaît la stratégie, il est capable de donner des appréciations sur la valeur militaire des gens qu'il a rencontrés. Mais c'est passionnant la stratégie, simplement, bon, Cantwell est un peu désabusé. Et alors là où il y a une zone d'ombre, un mystère. Est-ce qu'il se laisse mourir parce qu'il est désabusé ou est-ce qu'il est désabusé parce qu'il sait qu'il va mourir? Le livre laisse ça en suspens. C'est au lecteur de trouver la réponse s'il y en a une.
Hemingway fait-il partie des écrivains qui nous permettent de lire contre l'oubli, contre l'amnésie programmée?
Je dirais deux choses. Bien sûr, si on veut comprendre ce qui s'est passé pendant la guerre d'Espagne, on peut lire 40 livres d'histoire. Mais si on veut savoir comment elle a été vécue de l'intérieur, vaut mieux lire le livre d'Hemingway. Vaut mieux lire Pour qui sonne le glas. Et on comprendra mieux comment la guerre a été vécue de l'intérieur. Je crois que la réponse est claire. Hemingway a des choses à dire, c'est pas un écrivain intransitif. Hein, il a des choses à dire. Parfois, c'est une opinion qui est émise par un personnage dont on ne sait pas si elle est soutenable ou pas. Comme par exemple le mépris du colonel Cantwell contre les Anglais. Quand il dit que Montgomery n'engageait jamais une bataille s'il n'était pas sûr à 100% de la gagner. C'est-à-dire qu'il ne prenait strictement aucun risque. Bon, ça c'est dit. Hein. Il y a des militaires, j'ai entendu des militaires dire ça, que les Anglais étaient héroïques, mais à condition d'être bien assurés que leur héroïsme pourrait se déployer. Mais ça peut être aussi, vu la manière dont c'est fait, dans le dialogisme du roman, ça peut être aussi les opinions de soldats, comme ça, qui parlent, qui ne se privent pas de parler de l'état-major. Ce qui est important, c'est l'expérience. Quoi. C'est-à-dire, il n'écrit pas s'il n'a pas une expérience de ce qu'il écrit.
Et justement, est-ce qu'écrire, ce n'est pas pour lui un acte qui passe avant tout par le corps, par le mouvement? Est-ce qu'il ne faut pas mettre son corps en jeu pour écrire, le mettre à l'épreuve?
Oui. Mais ça passe par l'expérience, surtout. On peut pas écrire sur la chasse en Afrique si on n'a pas fait la chasse en Afrique. Bon, on peut pas... On peut pas écrire sur l'ivresse si on n'a pas pratiqué l'ivresse. On peut pas écrire sur la guerre de 14 si on n'y a pas participé. Et Hemingway, bon, là, avait une expérience comme ça formidable. Bon, et quand il s'est lancé sur les courses de taureaux, sur la corrida, il a tenu, et ça, bon, il y a encore des gens qui s'en souviennent aujourd'hui en Andalousie. Ils l'ont connu. Je connais même quelqu'un à Paris qui a connu Hemingway autour d'une corrida. Bon, fallait y aller. C'était pas de la connaissance livresque. Pour pouvoir écrire sur les courses du taureau, fallait en avoir vu 300, quoi, bon, et y avoir participé. Bon, ça donne des textes formidables.
Justement, dans le cas d'Hemingway, on peut parler d'un corps solide, d'un corps fort, mais qu'il se sera appliqué au fil des années à blesser, à déglinguer, comme s'il y avait quelque chose d'un peu sacrificiel dans l'acte d'écrire.
Oui, mais je crois que c'est une grande ambiguïté d'Hemingway. Aucun de ces personnages, je dirais aucun personnage d'Hemingway n'est héroïque. Purement héroïques. Ils sont héroïques, mais en même temps, ils ont tous des grandes fragilités, des très grandes fragilités, y compris dans le savoir désabusé du colonel Cantwell dans Au-delà du fleuve et sous les arbres. Bon, il y a une fragilité, c'est pas contradictoire. Il y a une éthique virile, et Hemingway. Ne considérez pas ce terme comme péjoratif. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, il faudrait le considérer comme péjoratif, pas plus que féminin. Il y avait quelque chose de viril, et il y avait aussi, il savait très bien parler de la fragilité qui peut s'infiltrer dans la virilité. Bon, là, faudrait aussi se poser la question de savoir si Hemingway ne risque pas bientôt d'être lu à contresens, dans la mesure où on le lirait comme un catalogue ou une histoire des plaisirs disparus. Dans les romans d'Hemingway, il y a une vie sexuelle très libre, qui est évidemment, aujourd'hui, même si on prétend le contraire, en train de s'effondrer. Il y a l'alcool, qui est considéré aujourd'hui comme quelque chose de parfaitement nocif. C'est fou ce qu'ils boivent, les personnages d'Hemingway. C'est terrible.
Ils se noient dans l'alcool.
Ben, ils se noient pas, justement, c'est ça ce qui est inquiétant.
Ils tiennent le coup.
N'importe qui serait mort très vite, et eux, non. Quand ils amènent une bouteille de vin, il y en a 8, quoi. C'est bon.
Et l'armagnac, et le vermouth,
et tout. Et le grappa. Bon, ils pratiquent la pêche au gros, la chasse au lion, la chasse au buffle. Bon, plaisir en voie de disparition, bien entendu.
Et il aime la corrida.
Il aime la corrida. Et il en fait un art, surtout. Il note que c'est un art. C'est un art qui met en jeu un corps réel, un risque réel. C'est pas une représentation, mais c'est un art, et il aime ça. Bon, faut dire que la corrida est peut-être la dernière chose qui nous reste aujourd'hui de ce qu'était le sacrifice dans la Grèce antique. Le dernier écho qu'on a de ce qu'était le sacrifice à l'époque d'Œdipe, c'est peut-être la corrida. Ça risque de disparaître. Il aime rouler en voiture, le plus vite possible. Bon, c'est-à-dire que on pourrait avoir l'impression que les personnages ont parfois une vie sexuelle libre, parfois elle est tempérée par beaucoup de sentimentalité, parfois non. Voilà, bon, est-ce que c'est un macho ? Non, il a traversé ces plaisirs-là et qui aujourd'hui sont des plaisirs disparus, voilà, ou en voie de disparition. Je suis persuadé que dans 50 ans, il n'y aura plus de corrida. Je suis persuadé que dans 50 ans, on ne pourra pas boire 3 litres de vin à la suite. Je suis persuadé que dans 50 ans, la chasse au lion ou au buffle sera rigoureusement interdite, que les corridas ont disparu de la culture espagnole. Tout ce qu'il y a de violent et de sacrificiel, et qu'est-ce qui restera ? Voilà. Moi, ça me navre qu'Hemingway finisse par devenir peu à peu, à cause de la réalité, une sorte de catalogue des plaisirs disparus. Quoi.
Nous avons entendu, dans la première archive de la première nuit consacrée à Hemingway, Roger Vrigny dire « Il représente pour nous l'écrivain type américain ». Quelle part de l'Amérique, du peuple américain, s'exprime chez Hemingway ou en quoi est-il un écrivain américain, Guy Scarpetta ?
Bon, il est un écrivain américain parce que...
Ou un Américain à distance.
Oui, à distance, mais en même temps, il était très européen. Non, il est américain parce qu'il y a cette passion du sport, de la chasse, etc. Bon, les grands espaces, bon. Mais en même temps, il a quelque chose de profondément italien qui se voit dans certains textes. De profondément espagnol, je crois que c'est Hemingway, plus que n'importe quel espagnol, qui a écrit sur les courses de taureaux, sur la corrida, au-delà de toute sensiblerie. Il a adoré la France. Les chroniques françaises et parisiennes d'Hemingway sont absolument extraordinaires. Et elles sont pas narcissiques. Il raconte la communauté d'exilés américains à Paris, le rapport avec la France, etc. Bon, c'est un personnage beaucoup plus universel qu'on pourrait croire. Et voilà. Bon, c'est pas le macho américain, quoi, typique tel qu'on a pu le caricaturer.
Peut-on aller jusqu'à dire qu'il a été à certains moments aux États-Unis non pas un homme à abattre, mais un écrivain à abattre ?
Il disait pas du mal de tous les communistes. Il avait appris à les apprécier en Espagne. Il avait même appris à en apprécier dans la résistance française. Et ça, c'était très, très mal vu. Voilà. Et il a eu de très bons rapports avec la révolution cubaine jusqu'au moment où il s'est un peu détaché de ça. Donc voilà, c'était un antifasciste absolu. Et il n'était pas. Bon, pour lui, il y avait quand même une fraternité de combat qui existait, quoi. C'est-à-dire que il y a des moments où il faut choisir son camp. Et peut-être choisir son camp, ça veut dire se mettre sous la. Comme il le fait dans fictivement, se mettre sous la responsabilité de généraux des brigades internationales qui sont pas tous de grands stratèges. Hein, le général hongrois, János Gál, n'était pas forcément pour Hemingway un grand stratège militaire. Bon. Mais bon, quand on se bat, on accepte la discipline, c'est tout. Après, quand on écrit, il n'y a aucune discipline qu'il faut accepter. Il faut au contraire avoir un regard libre.
Dans les archives de ces deux nuits Hemingway, on évoque à plusieurs reprises un écrivain à une œuvre hantée par la mort, le suicide. Est-ce si vrai?
Oui, je crois qu'il y avait un grand paradoxe chez Hemingway. Il était hanté par la mort. Il était hanté par la fragilité, c'est-à-dire, psychanalyste pourrait appeler ça, angoisse de castration ou tout ce qu'on veut, mais la contrepartie de cette espèce de survirilité affichée était probablement une grande angoisse, une grande fragilité. Et il y a ça, ces livres ne sont pas des manuels du parfait macho.
Et en même temps, ces nouvelles et ces romans sont aussi des pages qui disent la joie de vivre, le plaisir, la jouissance d'être au monde.
Absolument, absolument. Ça, c'est un. Les pages sur Paris sont absolument magnifiques, quoi. Les pages sur l'Espagne enfin, sur l'Espagne, par exemple, les courses de taureaux, les ferias, etc., sont absolument magnifiques. Il aimait la vie. Il aimait la vie, il avait l'angoisse de la mort, il était ambigu, il était contradictoire, il avait une survirilité affichée et aussi une très grande fragilité. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ses romans, il n'en cache rien. Rien. Le personnage principal d'Au-delà du fleuve et sous les arbres est un homme qui va mourir, qui le sait, et qui essaye de faire bonne figure. Bon. Le personnage de l'Adieu aux armes est un personnage qui d'une certaine façon, devient fragile. Le personnage de Pour qui sonne le glas est un personnage qui obéit à un ordre en sachant que cet ordre est quasiment impossible à réaliser, mais qui n'est pas pour autant un héros. Il y a cette ambiguïté. Je crois qu'Hemingway pensait qu'il y a quand même traversé trois guerres en Europe. Ce qui, par rapport à la tradition isolationniste américaine, est quand même pas mal, hein. Mais en même temps, il savait que on ne peut pas être entièrement du côté de l'épopée, quoi. L'épopée est mensongère. Il faut essayer de dire la guerre comme elle est, et pas comme elle devrait être. Le registre dans lequel il parle de la guerre, c'est pas un registre héroïque, c'est un registre tragique, toujours.
Et est-ce que le mot enthousiasme peut résumer une bonne part de l'œuvre d'Hemingway?
Oui, bon, il y a une extraordinaire vitalité. Quand il se lance dans quelque chose, il y va à fond, quoi. C'est pas un touriste américain qui va voir une corrida quand il en voit 1000. Hein, il va vivre avec les toreros. Quand il se lance dans une expérience, il y va jusqu'au bout. Donc, bien sûr, mais en même temps, la distance de l'écrivain est toujours là. Hemingway, c'est quelqu'un. Il y avait aussi les moments où qu'on vivait et les moments où on racontait. Et c'est pas forcément la même éthique. Quand on vit quelque chose, bon, par exemple, quand on vit la guerre, c'est pas le moment de se poser des questions. on obéit aux ordres ou alors on est un mauvais soldat. Après, quand on parle de la guerre, là, c'est le moment de se poser les questions. Bon, c'est toute chose.
Merci Guy Scarpetta. Nous nous retrouverons dans un peu plus de 2h30, juste avant la fin de cette seconde nuit consacrée à Ernest Hemingway, après avoir écouté dans un instant Ernest Hemingway, le quatrième des entretiens avec Maurice Edgar Coindreau, au micro de Christian Giudicelli en 1971. Le soleil se lève aussi, le deuxième temps de la lecture partielle qu'en faisait Michel Bouquet dans Lecture du soir en 1957 sur France 4 Haute Fidélité. Plaisir de la lecture En avoir ou pas d'Ernest Hemingway par Michel Mort en 1965. Et enfin, le troisième et dernier temps de la lecture du roman Le soleil se lève aussi, toujours par Michel Bouquet, et toujours dans Lecture du soir en 1957. La seconde nuit Ernest Hemingway se poursuit sur France Culture avec les archives.